De voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, dis-moi dans quoi tu roules et je te dirai qui tu es. Une émission où on va mettre les mains dans le cambouis, je peux vous le dire, pour comprendre les nouvelles vies des voitures d'occasion en Afrique. Elles constituent la majorité du parc automobile sur le continent, de l'Europe de l'Est au Niger, en passant par Bruxelles, Anvers, Cotonou. On va suivre quelques parcours types de voitures achetées, souvent moins de 500 euros. Revendu près de 1300 euros sur le continent, c'est un marché très organisé avec une multitude de métiers, d'intermédiaires et surtout de petits génies du recyclage. Bonjour Martin Rosenfeld.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'École des hautes études et à l'Université libre de Bruxelles et vous avez enquêté sur cette filière euro-africaine des véhicules d'occasion. Vous publiez Car Connection aux éditions Cartala. Combien de millions de voitures quittent l'Europe pour l'Afrique, là, pour donner une estimation, une idée, un ordre de grandeur ?
Alors, on n'est pas loin du million de véhicules qui, chaque année, quittent l'Europe pour l'Afrique. Il y a de multiples voies et puis il y a surtout quelques pays, quelques grands ports qui se sont spécialisés dans cette activité, notamment le port d'Anvers en Belgique, qui aujourd'hui est le premier exportateur de véhicules d'occasion à destination de l'Afrique.
Pas loin d'un million de véhicules chaque année, donc, hein, qui arrivent d'occasion sur le continent africain. Vous avez passé des mois sur ces immenses parcs auto ou ports de déchargement aussi de Cotonou. Seulement, depuis quelque temps, des pays comme la Côte d'Ivoire interdisent l'importation de véhicules trop vieux pour limiter la pollution, comme nous l'expliquera Stéphanie Aglietti, notre correspondante. Ce qui n'empêche pas le Ghana de fabriquer, un peu pour le fun, une voiture entièrement réalisée à partir de pièces recyclées. On donnera aussi la parole à Esther, qui est mécanicienne ambulante à Cocody, Yopougon, à Abidjan. Elle répare des voitures appelées autrefois des Au revoir France. Au Sénégal, on entendra Jean-Paul Guillet, qui est responsable technique de la concession de Sali Service, qui fait partie de la Sénégalaise de l'automobile, qui revend des véhicules d'occasion. Il nous dira comment se porte ce marché. Et puis consommateur, côté consommateur, faut-il se réjouir ou s'inquiéter de ces voitures chinoises, indiennes, qui pourraient arriver sur le continent entièrement neuves, vendues peut-être presque au même prix que les européennes ou américaines d'occasion. On en discutera, bien sûr. Sont-elles adaptées aux routes africaines ? Les voisins et les voisines, en tout cas, on aimerait savoir dans quoi vous roulez et quelles sont vos expériences. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Thierry à Bujumbura. Tiens, non, je vais vous lire d'abord le message qui a été posté sur WhatsApp de Michel, qui est à Kisangani, en RDC. Vu le niveau de vie sur le continent, ces voitures sont une opportunité pour l'Afrique. Mais malheureusement, dans le même temps, ces mêmes voitures constituent un désastre pour l'Afrique. Elles sont déjà usées de leur vie européenne lorsqu'elles arrivent sur le continent. C'est un danger de mort et personne n'ignore les dégâts que causent ces voitures sur l'environnement. Sans parler des accidents répétés suite à leur état d'ancienneté. Victor Emmanuel à Cotonou, lui, se prend à rêver. Mon rêve, c'est d'acheter une voiture neuve qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est plus cher, mais c'est durable, contrairement aux véhicules d'occasion. Je précise qu'en Europe, on n'en est pas là non plus, hein, aux voitures à l'énergie solaire, Martin Rosenfeld.
Non, ça risque de mettre quelques années encore avant qu'on puisse rouler avec ce type de véhicule, et sans doute quelques années supplémentaires avant que ces véhicules n'arrivent jusqu'en Afrique. Mais le premier message est très intéressant. Il y a évidemment là toute une sorte d'ambiguïté entre, d'une part, la nécessité pour un grand nombre de personnes d'acheter ces véhicules d'occasion, qui sont les seuls, finalement, qui peuvent s'offrir, se payer. Et puis, d'un autre côté, des véhicules qui parfois arrivent dans un état assez avancé, ce qui nécessite pas mal de boulot de réparation, d'entretien.
Mais tout le monde est bien conscient aussi des problèmes de pollution dans les villes. Abdelaziz nous poste un message de Djougou à l'ouest du Bénin. Le secteur des véhicules d'occasion, c'est un secteur qui rapporte gros pour les professionnels, surtout pour l'économie des pays africains. La majorité des voitures vendues chez nous au Bénin sont des véhicules d'occasion. À mon avis, l'État doit imposer une stricte limite d'âge des véhicules pour l'importation, pour donc limiter la pollution. Thierry à Bujumbura n'est pas d'accord au Burundi. Ça serait une erreur de la part des dirigeants africains d'interdire la vente des voitures d'occasion à importer. Alors, on n'a pas parlé d'interdiction, on parle de limitation, mais enfin, on pourra discuter. Elle constitue une opportunité pour nous qui n'avons pas les moyens d'acheter une voiture cher et on est obligé de ne pas tenir compte des accidents causés par ces voitures usagées. Allez, appelez-nous maintenant au 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein?
Le marché des véhicules d'occasion en Afrique, démonté par un anthropologue et pas par un économiste, Martin Rosenfeld, ça veut dire que c'est pas tout à fait un gros business finalement, que c'est trop informel?
Alors, c'est pas forcément que c'est pas un gros business, mais c'est quand même une activité économique qui se déroule selon des normes un peu différentes de celles de l'économie classique. Et donc, peut-être que l'économie ou les économistes ne sont pas les mieux armés, finalement, pour étudier ce type de pratiques économiques, puisqu'une grande partie de l'activité est rendue possible par toute une série de systèmes, parfois assez complexes, mis en place pour récolter les véhicules, les trouver. Et donc, il y a des personnes qui sont réparties un peu partout dans les villes d'Europe et qui cherchent finalement les véhicules les mieux adaptés au marché africain, qui sont capables de repérer ce qui est le plus demandé en Afrique et de faire remonter ces véhicules vers des places marchandes, des villes qui se sont spécialisées dans la collecte et la réexploitation de ces véhicules. Bruxelles, c'est un bon exemple du côté européen de la filière, mais surtout Cotonou, aujourd'hui, joue un rôle très important en Afrique de l'Ouest, puisque un très grand nombre de véhicules arrivent là-bas et repartent ensuite dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Alors on est loin des années 70-80 où on avait des touristes européens qui étaient un peu aventuriers, qui partaient en voiture vers l'Afrique et qui revendaient leur véhicule une fois arrivés pour se payer le billet d'avion du retour. On ouvre le capot, on commence à démonter le parcours des voitures d'occasion pour arriver jusqu'au client final en Afrique avec vous, Martin Rosenfeld. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti.
Le premier geste que fait un importateur béninois en séjour à Bruxelles dans le quartier Evert, qu'on appelle aussi rue des voitures, il me semble, hein, chez vous, c'est ça, c'est ce bruit-là, appuyé sur le champignon, sur l'accélérateur.
Alors parfois, simplement ouvrir le capot suffit déjà à l'importateur expérimenté pour déterminer si cette voiture est en bon état, s'il pourra la ramener. Un moteur bien propre, comme on dit, c'est une voiture qui va se revendre en quelques jours seulement à Cotonou. Bon, évidemment, on va quand même allumer le moteur et puis écouter ce que ça a à dire, mais vraiment, il y a moyen, rien qu'en ouvrant le capot, de déjà se faire une bonne idée sur le
tas. Une climatisation qui ne marche pas, c'est pas ça qui arrête les importateurs?
Non. Alors, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus des filières un peu distinctes en Afrique. Il y a les véhicules qui arrivent d'Europe, qui sont souvent des véhicules assez anciens, des véhicules très bon marché. Mais de plus en plus de véhicules viennent des États-Unis. Et là, on passe vraiment dans une autre catégorie de voitures, avec des grosses caisses, des véhicules 4x4 climatisés, mais qui évidemment sont vendus à un prix nettement plus cher.
Et ces véhicules qui arrivent des États-Unis transitent par l'Europe ou arrivent directement sur le continent africain? Et c'est une autre route?
C'est effectivement une autre route, ils arrivent directement sur le continent africain. C'est quelque chose qui a commencé assez récemment, au tout début du 21e siècle, dans les années 80-90. Aucun véhicule ne venait des États-Unis. C'était assez cher parce que c'était des véhicules qui devaient arriver à l'intérieur de conteneurs. Et puis maintenant, des nouvelles lignes maritimes se sont installées depuis les États-Unis, notamment depuis l'État de New York. Et on a ces immenses bateaux, ce qu'on appelle des ro-ro, des espèces de parkings flottants qui transportent jusqu'à 5 ou 6 000 véhicules en même temps, qui arrivent directement des États-Unis, qui amène un grand nombre de véhicules.
Et qui arrivent aussi dans le port de Cotonou?
Exactement. Et donc, ces véhicules qui étaient très, très marginaux avant le tournant du 21e siècle, aujourd'hui, il y a presque un tiers des véhicules à Cotonou qui viennent directement des États-Unis.
Oui, ça, c'est très récent. Alors, aujourd'hui, on va revenir aux routes classiques. Europe vers donc Bruxelles, via le port d'Anvers, surtout, direction Cotonou au Bénin. Les voitures d'occasion pour l'Afrique, aujourd'hui, les critères, qu'est-ce que c'est? Les modèles qui circulent.
Alors, la Toyota reste vraiment la voiture reine. C'est une voiture qui est très recherchée parce que c'est une mécanique qui, bon, même si évidemment elle évolue avec le temps, mais reste relativement simple. C'est surtout des voitures pour lesquelles il y a un grand nombre de pièces détachées disponibles en Afrique. Et donc, on sait qu'en achetant une Toyota, on pourra facilement la réparer. Mais il y a des véhicules qui restent des véhicules mythiques. Les Peugeot, notamment, certains modèles très anciens, la Peugeot 404, Peugeot 405, qui sont des véhicules qui ne sont plus construits en Europe depuis les années 70 parfois et qui restent très très recherchés en Afrique pour la solidité de ces véhicules.
Increvable, comme on dit, hein, chez nous. Pourquoi tout commence à Bruxelles, la plus grande place marchande européenne du véhicule d'occasion ?
Alors, en vérité, tout commence à Anvers. C'est vraiment le port d'Anvers qui a joué un rôle déterminant dans la transformation de la Belgique en cette place marchande de véhicules d'occasion. Parce qu'en fait, bien souvent, le port d'Anvers est la dernière escale des bateaux qui traversent l'Europe, qui s'arrêtent dans différentes villes en Allemagne, puis à Rotterdam aux Pays-Bas, avant de partir vers l'Afrique. Et donc, charger ces véhicules au port d'Anvers, c'est la solution la plus économique. C'est la solution la plus rapide aussi, puisque souvent, en moins de 2 semaines, on peut récupérer les véhicules côté africain.
Mais c'est souvent à Bruxelles, rue des voitures, comme on dit, que l'on vient choisir les véhicules d'occasion qu'on va acheter.
Tout à fait. Et donc, un marché de revente de véhicules d'occasion s'est développé à Bruxelles à l'initiative d'un petit groupe d'importateurs libanais au départ, qui sont les premiers à s'être installés, qui ont été les pionniers, et puis qui ont professionnalisé ce marché, qui ont mis en place les contacts avec les compagnies maritimes. Et aujourd'hui, il y a tout un marché organisé autour des quelques grands consignataires libanais du quartier. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant de se promener dans ces quelques rues du centre de Bruxelles. On est très proche du centre-ville, le long du canal, et il y a des dizaines de garages, des dizaines de magasins aussi spécialisés dans la revente de marchandises, de seconde main, de pneus d'occasion, de batteries, tout ce qui peut finalement intéresser les importateurs africains qui ont voyagé jusqu'en Europe pour acheter les véhicules.
Voire même de gazinières qu'on va charger à l'arrière de la voiture, histoire que la voiture ne voyage pas vide. Alors, beaucoup de Libanais, mais également des Libanais béninois, mais également des Béninois qui viennent. Vous dites que les Béninois se déplacent davantage que les Libanais qui ont tendance maintenant à gérer le business à distance, à acheter les voitures à distance.
Alors, c'est vrai qu'on observe aujourd'hui deux façons un peu différentes de travailler. Il y a une filière libanaise à l'intérieur de ce commerce d'exploitation de véhicules d'occasion, qui est une filière très professionnelle, qui se base finalement sur la diaspora libanaise. Et donc, on a là une série d'intermédiaires à différents échelons de la filière, dans différentes villes d'Europe, des personnes qui vont chercher les véhicules, puis qui envoient ces véhicules à des connaissances, à d'autres Libanais qui sont installés à Bruxelles, qui eux-mêmes vont les envoyer jusque dans différents ports africains où les véhicules seront revendus. Et donc là, on a une filière qui fonctionne très très bien avec une série d'intermédiaires, tous libanais, qui parviennent à travailler entre eux de façon très très rapide et efficace. Et puis de l'autre côté, on a des importateurs africains qui font exactement le même business, qui voyagent en Europe pour acheter les véhicules, mais qui bien souvent voyagent par eux-mêmes pour aller acheter les véhicules dans les différentes places marchandes européennes avant de retourner les vendre en Afrique.
Vous citez des ordres de prix, hein. Bien souvent, les consignataires que vous avez suivis, donc en fait des gens qui achètent des voitures d'occasion, qui vont aller les revendre ensuite en Afrique, achètent des voitures à quelques centaines d'euros et les revendent pas tellement plus que 1000 euros, 1000, 1500, parce que sinon ils ne trouveront pas preneur. Est-ce qu'on peut faire fortune avec ce commerce ?
Alors, il y a des fortunes qui se sont faites dans cette activité
commerciale. Il y a plein d'intermédiaires ensuite. Hein.
Voilà, exactement. Donc, c'est une activité commerciale qui mobilise un grand nombre d'intermédiaires. Chacun a besoin de gagner un petit quelque chose dans l'activité. Et pourtant, c'est à des véhicules qui doivent rester très, très bon marché, puisque l'acheteur final, le client, a généralement un budget assez limité pour obtenir ces véhicules. Donc, c'est devenu très difficile aujourd'hui de réellement faire fortune dans ce commerce. Des fortunes se sont faites dans les années 90 avec les tout premiers grands importateurs au moment où le marché a explosé, notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est devenu nettement plus compliqué, d'autant plus que les législations dans différents pays africains changent régulièrement et que donc des filières qui fonctionnaient assez bien peuvent du jour au lendemain être rendues beaucoup plus difficiles parce qu'on va limiter l'âge des véhicules ou parce que certains pays vont davantage contrôler leurs frontières ou taxer davantage les véhicules.
Pour l'instant, la filière Europe, Cotonou, Bénin fonctionne ou avec des évolutions récentes de restrictions ?
Alors effectivement, le Nigeria, début 2017, a mis en place une nouvelle législation qui, normalement, interdit l'importation des véhicules par frontière terrestre. Donc c'est toujours possible d'importer des véhicules au Nigeria en passant par le port de Lagos, mais ce n'est normalement plus légal d'emmener les véhicules jusqu'à Cotonou et puis de traverser la frontière vers le Nigeria. Et donc, c'est une activité qui se fait toujours, c'est une pratique qui se fait toujours.
C'est pour limiter quoi finalement ? Alors, de la part du Nigeria ?
Le Nigeria le fait principalement pour essayer d'augmenter ses recettes douanières, puisque beaucoup des véhicules qui arrivaient à Cotonou rentraient un peu informellement au Nigeria sans toujours payer les droits de douane. Et donc aujourd'hui, en contrôlant davantage la frontière terrestre, il y a une volonté d'obliger ces véhicules à arriver par la mer. Et c'est bien sûr beaucoup plus facile de contrôler l'arrivée des véhicules et surtout de collecter les taxes liées à ces véhicules lorsqu'ils arrivent par bateau, puisque l'ensemble des véhicules, les numéros de châssis, tout est déclaré en douane avant même l'arrivée du bateau
c'est
dans
ça.
Le port de
Lagos.
Mais là,
ce n'est pas lié à un contrôle sur l'âge des véhicules comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Alors, on continue très brièvement de suivre le parcours de ces voitures avec des intermédiaires, des transitaires, direction le port d'Anvers, mais ça peut être aussi le port d'Hambourg en Allemagne ou le port de Rotterdam aux Pays-Bas, même si c'est moins important. Ensuite, 3 semaines de fret. Hein, ces voitures passent 3 semaines en mer sur ces immenses parkings flottants dont vous parliez, qui peuvent accueillir jusqu'à 5000 voitures sur 8 étages et ensuite l'arrivée dans le port de Cotonou. Pourquoi le Bénin draine la moitié des importations ? Il y a une raison historique. Bien sûr, il y a le Togo aussi, mais...
Alors, le Bénin, comme d'autres pays, comme vous avez dit, le Togo, ce sont des pays qui se sont progressivement spécialisés dans l'importation et la réexportation de marchandises à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle parfois des États entrepôts, des pays qui n'ont pas forcément des ressources naturelles importantes comme le pétrole et qui, du coup, ont dû trouver d'autres stratégies macroéconomiques pour rapporter des devises. Et donc, le Bénin, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est spécialisé dans des infrastructures portuaires, dans un réseau routier et dans importer des marchandises et les réexporter ensuite et simplement collecter des droits de douane sur ces marchandises qui transitent par le pays.
Et tout aussi une kyrielle d'organismes publics hein, qui organisent l'accueil des véhicules et qui vont les rediriger. Alors ces voitures, elles arrivent par le Bénin et ensuite elles vont où ? Vous avez dit beaucoup le Nigeria forcément, le géant qui a tout le temps soif de voitures, mais aussi le Niger, le Mali, le Burkina, ça va jusqu'où ?
Alors, il y a aujourd'hui des facilités douanières qui sont mises en place par le Bénin pour ce qu'on appelle les pays de l'Interland, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas d'accès direct au front de mer et qui du coup sont obligés de faire transiter les marchandises par d'autres pays pour les acheminer jusque chez eux. C'est le cas du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Et donc ces pays payent des droits de douane très très bas pour les marchandises qui transitent par le Bénin. Et donc un grand nombre des véhicules qui vont arriver à Cotonou sont déclarés en transit vers le Niger. C'est la quasi-totalité des véhicules, finalement, qui sont officiellement en transit par Cotonou vers le Niger.
C'est là qu'on paye le moins cher, hein, le moins de douane.
Exactement.
Et puis, si jamais la voiture ne reste pas au Niger, c'est là qu'il faudra payer plus pour qu'elle aille ailleurs, c'est ça ?
Complètement, sauf qu'il arrive bien souvent que une fois arrivé au Niger ou même en route vers le Niger, le véhicule passe la frontière du Nigeria et que rien ne soit déclaré quelque part. Et donc c'est une façon de contourner le paiement de certains droits de douane pour une partie de ces véhicules, ce qu'on appelle parfois des échappés, des véhicules qui contournent finalement
C'est joliment dit, les échappés. La seconde vie des véhicules d'occasion en Afrique, appelez-nous 33 1 84 22 71 71. Quoi facile, oui, nous et nos bails. Mais les enquêtes, oui, nous n'ont pas nos bails. Et nous louons d'offrir le chogar du quartier. Et nous louons d'offrir hauteur le gars sur des gros. Come on, 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 come Parole, je t'en prie, je suis vraiment sincère avec toi. Maintenant nous combien ouvre, nous combien, j'aurai des doigts mais mon dos gant.
Chanyambe, Mama Chanyambe, Coco Chanyambe, Da Chanyambe, Pami Chanyambe, Nenton Nyambe, Ata Chanyambe, Eko Kata Nyambe.
And I'm in Timbo Gali Swag, and Timbo Gali Swag, and I'm in Timbo Gali Swag, and Timbo Gali Swag, and I'm in Timbo Gali Swag, and Timbo Gali Swag.
C'est un bon petit tube, Patrick Ruffino, Ageda, Tau chez 7 milliards de voisins, la seconde vie des véhicules d'occasion, enfin on devrait dire même la cinquième vie, sixième vie, septième vie, hein, si on prend le tout démarrage d'une voiture qu'on aura peut-être achetée en Europe de l'Est ou pourquoi pas en Europe du Sud et qui ensuite arrive à Bruxelles, puis au port d'Anvers, puis ensuite traverse la traversée maritime pour arriver au port de Cotonou. On en discute avec vous, Martin Rosenfeld, vous êtes l'auteur de Car Connection, la filière euro-africaine de véhicules d'occasion. Vous nous expliquiez d'ailleurs il y a quelques minutes que maintenant on a même un quart de ces véhicules qui arrivent maintenant des États-Unis, donc qui ne passent plus par l'Europe, qui arrivent directement par voie maritime, toujours d'ailleurs au Bénin, le champion toute catégorie de l'importation de véhicules d'occasion. On donne la parole à un auditeur au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ghislain.
Bonjour Emmanuel.
Ghislain, vous nous appelez de Yaoundé, vous avez acheté une voiture d'occasion, vous l'avez importée personnellement d'Allemagne, vous ne faites pas comme tout le monde.
Oui, je l'ai importée personnellement d'Allemagne, je suis commercial dans la vie.
Vous avez acheté une Toyota, c'est ça, une A26?
Exactement, une A26 2004.
Ouais, c'est pas jeune hein, 2004.
C'est pas jeune du tout, donc c'est vraiment une voiture d'occasion qui avait déjà pratiqué. En 14 ans en Allemagne.
Oui, combien de kilomètres au compteur?
On était à 125 000 kilomètres au compteur.
Oui. Et donc, comment vous avez fait, Ghislain, alors?
Alors, il suffit juste d'aller sur un site internet. Et puis, il y en a plusieurs. Donc, sélectionner un véhicule, parcourir un peu l'annonce. Au besoin, contacter le vendeur, échanger avec lui. Et ensuite, maintenant, j'ai envoyé un contact local, en l'occurrence mon frère, qui est allé faire la visite.
Donc ouvert le capot de la voiture, on est bien d'accord.
Exactement, exactement.
Bon, et donc, vous n'aviez pas le sentiment de prendre un risque?
Pardon?
Vous n'avez pas le sentiment que vous avez pris un risque?
Non, j'ai pas pris de risque.
Et vous êtes content de votre achat?
Oui, je suis très content de mon acquisition, surtout que je n'aurais pas eu suffisamment de moyens pour acheter un véhicule neuf sur place, surtout une Toyota. Il faut compter autour de 20 000 euros pour avoir une Toyota.
Et vous l'avez payé moitié moins, vous l'avez payé près de 9 000 euros, 6 millions de francs CFA, hein, c'est bien ça?
Exactement.
Vous avez quand même des moyens que tout le monde n'a pas sur le continent africain pour acheter une Toyota à ce prix-là?
C'est vrai qu'il y a une classe moyenne qui émerge de plus en plus. Et je pense qu'en fonction du métier de tout un chacun, on pourrait se donner ces opportunités-là.
Je voulais juste vous demander, ça n'a pas été difficile, toutes les démarches après dans le port, une fois que le véhicule arrive sur place pour le récupérer et puis le sortir du port?
Le dédouanement, ça s'est fait où? À Cotonou?
Non, au port de Douala. Voilà. Et c'est là que les démarches sont plus compliquées. Il est plus simple d'acheter le véhicule en Europe et de l'envoyer, mais au port de Douala, c'est nettement plus compliqué. Le dédouanement, les démarches m'ont coûté environ 2 millions de francs CFA.
Parce que c'est vrai qu'un grand nombre de personnes préfèrent aller acheter les véhicules dans les parcs, même si parfois le prix est un peu plus élevé, parce que c'est finalement assez difficile de prendre soi-même en charge toutes les démarches pour le dédouanement des véhicules dans le port. Il y a de nombreuses choses à faire, et puis parfois aussi une série de faux frais qui n'est pas facile de maîtriser quand on n'est pas soi-même expert dans la filière.
Vous aviez un intermédiaire, quelqu'un qui s'occupait de tout cela, le dédouanement dans le port de Douala?
Oui, j'ai fait appel à un intermédiaire. Qui a perçu environ 100 000 francs, donc autour de 150 euros pour ses services.
Donc vous avez court-circuité la filière, la filière Belgique-Bénin, on peut dire, Martin Rosenfeld. Ça, ce n'est pas une filière très habituelle, Allemagne, Douala.
Non, mais il y a effectivement toute une série d'autres grands ports en Afrique qui reçoivent un nombre important de véhicules. Il y avait simplement le Togo voisin, mais aussi au Congo. Il y a des ports assez importants et ce n'est pas toujours si simple de faire transiter les véhicules d'un pays à l'autre. Et donc, effectivement, on a de nombreuses filières parallèles. Simplement, le port d'Anvers et Bruxelles d'un côté et puis Cotonou de l'autre sont ceux qui, numériquement, sont les plus importants. Mais il y a bien sûr plein d'autres filières parallèles.
Et les plus rodées aussi. Merci Ghislain de nous avoir appelés. Très très bonne journée avec votre Toyota donc à Yaoundé. On prend la route d'Abidjan maintenant pour retrouver notre correspondante Stéphanie Aglietti. Bonjour.
Bonjour.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé en décembre dernier de limiter l'âge des véhicules d'occasion importés pour tenter de rajeunir son parc automobile. En quoi consiste cette mesure en fait? Quelles conséquences?
Donc les véhicules d'occasion importés ne pourront bientôt plus dépasser un certain âge. 5 ans à partir de la date de leur première mise en circulation pour les taxis et voitures, et 7 ans pour les minibus et 10 ans pour les bus et camions. Alors selon le ministère ivoirien des Transports, la moyenne d'âge des voitures circulant en Côte d'Ivoire, et que l'on surnomme ici, non sans une pointe d'ironie, « au revoir la France », se situe entre 17 et 22 ans, voire 25 ans pour les véhicules utilitaires. Donc le parc automobile ivoirien serait d'ailleurs le plus vieux de l'espace CDAO. Et d'ailleurs, ça se voit à l'œil nu, à Abidjan et dans le reste du pays, les véhicules vétustes, recrachant une épaisse fumée noire, font partie du paysage. Donc il s'agit donc pour les autorités de lutter contre ce fléau environnemental, mais aussi de limiter les accidents de la route à cause de véhicules vétustes.
Oui, bien sûr. Mais c'est une mesure qui est, bon, pavée de bonnes intentions, mais qui n'est pas évidente à mettre en œuvre.
Eh bien oui, parce que si on limite l'âge d'importation des véhicules, mécaniquement, leur prix va augmenter. Et d'ailleurs, lorsque l'on échange dans la rue avec les Ivoiriens et les importateurs, on remarque que c'est leur principale crainte. Il va falloir également renforcer la procédure pour contrôler effectivement l'âge des véhicules qui entreront sur le territoire. Cette mesure devait d'ailleurs entrer en application le 31 mars, mais les autorités viennent d'annoncer un délai supplémentaire de 3 mois. Alors, elles assurent qu'il ne s'agit pas là d'une reculade face à la grogne des importateurs, mais bien d'un délai pour finir de mettre en place toute la chaîne de contrôle et la mise en œuvre d'une plateforme qui facilitera la procédure d'immatriculation des véhicules et réduira les délais à l'importation et les faux frais. Et par ailleurs, par cette mesure, le gouvernement espère aussi stimuler le marché du neuf et pourquoi pas attirer des usines d'assemblage en Côte d'Ivoire.
Oui, alors on n'en est pas là, mais au Ghana, pays voisin de la Côte d'Ivoire, une initiative originale a vu le jour il y a quelques années. C'est une voiture 100% fabriquée à base de pièces de récupération.
Oui, à la base de ce projet qui peut paraître un peu fou, se trouve un artiste et un sociologue néerlandais qui ont décidé de suivre la route des véhicules et déchets de pièces automobiles occidentales du nord vers le sud. Alors, ils ont atterri à Suam Magazine, une immense casse automobile située dans le sud du Ghana. Et sous leur impulsion, les artisans du quartier ont mis seulement 3 mois, en 2013, pour construire un petit pick-up anguleux dont les portes s'ouvrent aux 4 coins. Donc, pick-up, vous l'avez dit, 100% recyclé. Mmh. Alors, ce véhicule s'appelle la Turtle, tortue en français. Il s'apparente finalement plus à une œuvre d'art qu'à un moyen de transport. La Turtle a d'ailleurs été montrée en Europe lors d'expositions. Mais c'est devenu une sorte de fierté nationale et une source de réflexion. Un nouveau savoir-faire est né à Suam. Ouais.
Bon, on a compris, ce n'est pas une Ferrari. Hein. En attendant de potentiellement relancer un secteur automobile en Côte d'Ivoire qui a été très affecté par la crise des années 2000, donc le pays voisin, le Ghana, toujours, hein, abrite depuis 2015 la toute première marque de véhicules Made in Ghana.
Et voilà, c'est bien au-dessus de la Turtle. C'est la marque Kantanka. Du nom de l'inventeur de ces 4x4 qui sont là fabriqués à une 60aine de kilomètres à l'ouest d'Accra, la capitale. Alors cet inventeur, ce géo-trouve-tout ghanéen s'appelle Kwado Safo Kantanka. Ces voitures tout-terrain ressemblent aux modèles occidentaux et sont siglées d'une étoile à 5 branches, le symbole du Ghana et donc logo de la marque. Ces 4x4 Kantanka ont été conçus au Ghana par des ingénieurs. Et si certaines pièces telles que les sièges et le tableau de bord sont fabriquées sur place, la plupart des composantes de la voiture sont importées et assemblées à la main dans l'usine ghanéenne. Ces voitures coûtent entre 11 et 23 000 euros. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est moins cher que les véhicules neufs importés. Ça reste un pari fou dans un pays où le marché, là aussi, hein, est dominé par les véhicules d'occasion importés. Il faut aussi séduire les consommateurs qui, comme partout en Afrique, ont encore du mal à faire confiance aux produits africains dès qu'il s'agit des produits à forte technologie.
Ça, c'est sûr, on le constate tous les jours en faisant cette émission. Martin Rosenfeld, vous voulez réagir ?
Oui, ben c'est évidemment des initiatives qui sont très intéressantes et qui soulignent le fait que depuis la fin des années 1990, il n'y a plus de chaîne de construction de véhicules neufs en Afrique. Et donc peut-être que ce type d'initiative est l'avant-garde d'un retour des grandes sociétés de construction et d'assemblage de véhicules sur le continent africain, ce qui pourrait permettre de faire baisser un peu le prix des véhicules neufs qui restent aujourd'hui très très inaccessibles pour un grand nombre de personnes. Alors il y a aussi évidemment toute l'inventivité et tout le savoir-faire des techniciens derrière qui parviennent à maintenir en circulation un parc automobile parfois très ancien, mais avec réellement des prouesses sur place et certains véhicules parfois un peu sorti d'un film de Mad Max où on va réparer, rafistoler, reconstruire localement les pièces qu'on ne parvient pas à importer, les pièces de rechange. Et donc toute une série de pièces aujourd'hui sont refabriquées à l'identique en métal, alors que ce sont aujourd'hui bien souvent des pièces en plastique sur le véhicule d'origine. Mais ça donne quand même des véhicules qui restent sur les routes et qui souvent continuent à circuler assez longtemps, bien plus longtemps que ce que ne serait leur vie en Europe.
Ouais. Ça veut dire qu'en fait, avec certaines réparations, on peut les rendre de meilleure qualité que ce qu'elles étaient à la sortie de l'usine, à la limite, non, parfois ?
Tout à fait. Alors,
avec un mode un peu artisanal.
Il y a en tout cas une façon de s'adapter au climat de l'Afrique et aux routes africaines et donc parfois de rendre ces véhicules mieux adaptés aux conditions dans lesquelles elles vont devoir rouler localement.
On accueille un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Moussa, vous êtes à Conakry.
Oui, bonjour.
Moussa, alors vous avez une voiture d'occasion ?
Oui, j'ai une voiture d'occasion.
Oui, que vous avez acheté où, comment ?
Je l'ai acheté sur place, comme tout le monde. En fait, ici, on a une expression dans les parcs automobiles qui s'appelle Bruxelles. Pour désigner les voitures d'occasion, on vous demande, vous voulez une voiture Bruxelles ou vous voulez une voiture sortie d'usine ?
D'accord, donc vous avez une voiture Bruxelles.
Exactement.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez sans indiscrétion ?
Comment ?
Qu'est-ce que vous avez comme modèle, comme marque ?
C'est une Hyundai, c'est une voiture coréenne. Mmh. Il faut savoir qu'ici déjà, les voitures d'origine asiatique, notamment japonaises, sont les plus répandues sur le marché. Parce que déjà, pour trois facteurs, elles sont mieux adaptées à la météo et à l'état des routes. Les pièces de rechange sont plus facilement trouvables et les mécaniciens maîtrisent plus cet aspect-là comparativement aux voitures européennes et américaines. Mm. Sinon, il existe aussi une loi qui interdit l'importation des voitures de plus de 5 ans. Mais la loi n'est pas respectée parce que la plupart des voitures Bruxelles, justement, comme on les appelle ici, c'est des voitures qui ont en général entre 15 et 20 ans.
Ah oui, donc elle n'est absolument pas respectée. Donc c'est le même type de réglementation que ce qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas respectée en Guinée-Conakry. Sur les pièces de rechange, ce qu'évoquait Moussa, merci de nous avoir appelé en tout cas de Conakry, puis passer une très bonne journée. Martin Rosenfeld, sur la problématique des pièces de rechange aujourd'hui, c'est le critère déterminant sur ce marché entre l'Europe et l'Afrique ?
Donc effectivement, une partie importante dans le choix d'un modèle ou surtout d'une marque de véhicule va être déterminée par la capacité de réparer ce véhicule et de le maintenir sur les routes. Et c'est quelque chose que Toyota a très bien compris. Et donc il y a des facilités aujourd'hui qui sont mises en place entre le Japon et différents pays d'Afrique pour exporter des pièces de rechange. Et c'est vraiment la capacité à trouver ces pièces de rechange de façon assez abondante qui rend les et Toyota, très recherchés sur les marchés africains aujourd'hui.
Kosso nous appelle de Cotonou. Je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Bonjour Kosso.
Oui. Bonjour Madame Emmanuel, bonjour Platon.
Kosso, vous nous appelez de la capitale mondiale de la voiture d'occasion. Est-ce qu'on peut presque dire ça finalement aujourd'hui?
Ben ouais, on peut le dire, j'appelle de Cotonou.
Oui. Alors vous voulez nous parler des prix des voitures. Faut préciser que d'où vous nous appelez, Kosso, on a de gigantesques parcs automobiles dans plusieurs endroits, hein, avec des centaines et des centaines de voitures, et qu'on peut venir choisir une voiture d'occasion à l'infini pratiquement. Hein.
Exactement. Comme nous les appelons ici, c'est des parcs de vente des voitures d'occasion.
Oui. Donc on vous écoute, Kosso.
Personnellement, j'ai une Toyota. Et tout ce temps, je voulais attirer l'attention, c'est que les prix que j'ai entendus à l'antenne tout à l'heure ne sont plus exactement les réalités ici. Parce qu'une voiture de 1000 euros, vous n'en avez plus vraiment.
Ah, d'accord.
Pour avoir une voiture bas de gamme, et pour avoir une voiture bas de gamme de cette catégorie de voitures d'occasion, il vous faut compter quand même 2000 euros.
Ah, Martin Rosenfeld. Alors, attendez, on va donner la parole à Martin Rosenfeld qui a enquêté sur le sujet. Martin, vous parlez plutôt de voitures autour de 1500 euros que les importateurs craignent au-delà de ces sommes de ne pas trouver preneur. Que répondez-vous à Kosso, à Cotonou?
Mais donc, il y a aujourd'hui près d'une centaine de parcs de vente de véhicules dans la périphérie de Cotonou. En fait, toute la zone entre la ville de Cotonou et la frontière du Nigeria est remplie de ces parcs. Et on a là une grande variété dans les véhicules qui sont vendus. Il y a des parcs qui se sont spécialisés dans des véhicules en provenance des États-Unis, qui sont des véhicules qui sont vendus nettement plus chers. On a parfois des véhicules qui sont quasiment neufs, qui n'ont que quelques kilomètres et qui sont vendus. On peut trouver des Hummers aujourd'hui à Cotonou qui sont vendus une vingtaine de milliers de dollars. Donc on a vraiment tout type de catégorie. Mais certains importateurs continuent aujourd'hui à se spécialiser dans des véhicules qui sont vendus 1 million de francs CFA, soit plus ou moins 1500 euros. Et ce sont des véhicules les plus anciens, les moins chers, bien souvent qui viennent d'Europe, de Bruxelles, et qui, voilà, c'est une partie quand même du marché aujourd'hui pour ces véhicules assez bas de gamme qui sont vendus à un prix un peu plancher d'un million de francs CFA.
Ouais, donc un marché à plusieurs vitesses finalement. Kosso, est-ce que vous voulez apporter d'autres précisions dans votre témoignage?
Oui, moi personnellement, j'ai une Toyota, à l'achat sur le parc, elle m'a coûté 6 000 euros. Quand j'ai fait le parc PO, quand j'ai payé tout ce qu'il y avait comme douane là-dessus, ça m'a fait 2500 euros. Donc, ajouter 2500 euros et 6 000 euros, je me suis retrouvé à 8 500 euros.
Waouh! Avec tous les frais annexes, hein?
Exactement, avec tous les frais annexes. Alors,
dédouanement, etc.
En fait, vous vous demandez, est-ce que l'idéal n'aurait pas été de prendre une voiture neuve?
Est-ce qu'à ce prix-là, c'était pas mieux d'acheter une voiture neuve? Alors, juste réponse brève, et puis ensuite, on prend d'autres auditeurs, parce que ça se bouscule au standard sur le sujet.
Oui, une difficulté qu'on a, par exemple, au Bénin, c'est que les frais de dédouanement pour un véhicule neuf sont très, très élevés. Parfois, ça peut s'élever jusqu'à 100% de la valeur du véhicule. Donc, c'est pas tout d'être capable de se payer un véhicule neuf. Ouais. En fait, il faut aussi l'importer jusqu'au Bénin. Et donc, tant qu'il n'y a pas des chaînes de construction locales et une façon d'acheter ces véhicules sans payer des taxes trop élevées, ça devient quasiment impossible de se payer un véhicule neuf.
Ce qui veut dire qu'on évite autour de 20 000 euros pour acheter une voiture, franchement... pas de haut de gamme, on arrive vite à ces sommes-là quand on achète une voiture neuve.
Et ça semble un peu contradictoire, parce qu'on a l'image aujourd'hui de véhicules qui sont vendus sur le marché d'occasion en Europe, mais qui quelque part vont être encore plus chers une fois qu'ils arrivent en Afrique, puisqu'il faut les envoyer sur place, payer le dédouanement, payer une série d'intermédiaires. Donc on a un véhicule assez coûteux au final, effectivement.
Nous sommes en ligne avec Jean-Paul Guillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes installé à Sali, la région touristique et balnéaire, non loin de Dakar, au Sénégal. Et vous êtes responsable technique de la concession de Sali Service, qui fait partie de la Sénégalaise de l'automobile, qui revend donc des véhicules d'occasion. On entendait tout à l'heure notre correspondante qui parlait de nouvelles voitures made in Ghana. Est-ce que, pour l'instant, vous commercialisez des véhicules d'occasion via des filières classiques? Qu'est-ce que vous pensez des évolutions actuelles du marché des véhicules d'occasion?
Alors, les véhicules en majorité qui viennent au Sénégal sur des véhicules en provenance de Bike-Back qui ont beaucoup de kilomètres. Ces véhicules sont achetés pour la plupart aux enchères, c'est-à-dire hors taxe, moins les kilomètres, moins les réparations éventuelles de carrosserie. Et ces véhicules, bien sûr, en chemin, perdent tous les kilomètres qui sont au compteur. C'est-à-dire que les véhicules en moyenne entre 2 et 300, 350 000 kilomètres. Et quand ils arrivent ici, ils ont 80 000 ou 90 000 au compteur. Et nous, tous les jours, on est embêté par les clients qui ont acheté ces véhicules-là et qui passent à l'atelier. Ah bah oui. Tomber les diagnostics dessus, c'est tout à refaire.
Donc des voitures au compteur trafiquées, ce que vous appelez des voitures décilométrées finalement.
Voilà, tout à fait. Les kilomètres disparaissent sur la route.
Mais comment fait un client d'ailleurs quand il achète lui-même sur un parc une voiture d'occasion pour s'assurer que le compteur n'a pas été décilométré, n'a pas été trafiqué?
Alors vous savez, j'en ai discuté avec les gens de la DIC. Et les gens de la DIC nous disent qu'ils ont beaucoup...
Attendez,
de dossiers,
la DIC, si on
dossiers.
Pouvait éviter de parler avec des sigles, parce qu'on est déjà dans un sujet...
Ah oui, la DIC, c'est la direction des investigations, c'est la police qui contrôle si les véhicules sont volés ou qui sont en bon état de...
Au Sénégal.
Papier, on va dire. Voilà. Mm. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de dossiers en plainte, mais que baisser un compteur au Sénégal, c'est pas un délit. Donc les gens risquent rien. Et ça, ils le savent.
D'accord, donc il suffit d'être un peu agile et de bien connaître la combine. Martin Rosenfeld, quel est globalement, il n'y a pas que les trafics de compteurs, quelle est l'étendue de la corruption? À quel niveau se fait-elle sur ce marché des voitures d'occasion? Ça se fait au niveau du dédouanement? Comment ça se passe?
Alors, c'est un type d'économie un peu particulier parce qu'il y a un très grand nombre d'intermédiaires à la fois en Europe et en Afrique, donc de nombreuses étapes dans la filière. Et du coup, certaines étapes qui sont parfaitement formelles, légales, où les contrôles sont très bien mis en place et très faciles, notamment tous les véhicules qui sont chargés dans les bateaux et puis déchargés ensuite dans le port en Afrique. Voilà, l'ensemble de ces véhicules doit déclarer le numéro de châssis, on peut les compter, on peut les vérifier, il y a des douaniers dans le port. C'est très simple de vérifier cette partie-là de la filière. Mais en amont, donc tout ce qui se passe avant de charger ces véhicules dans les bateaux, eh bien, il peut y avoir des véhicules qui sont achetés, revendus dans la rue. Il n'y a pas toujours l'ensemble des taxes qui sont payées déjà en Europe. Et puis, une fois que les véhicules arrivent en Afrique, il peut y avoir un certain nombre de fraudes. Alors, on a parlé ici du décilométrage, qui est une pratique assez courante. Une autre pratique qui est constatée régulièrement au Bénin également, c'est le fait de modifier l'âge du véhicule en faisant une nouvelle carte grise quelque part. Et ce qui remet aussi un tout petit peu en question l'intérêt de ces nouvelles lois qui apparaissent dans de nombreux pays et qui limitent l'âge des véhicules, puisque c'est pas très compliqué finalement de changer artificiellement l'âge de ces véhicules en faisant une nouvelle carte grise.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul Guy en tout cas de nous avoir appelé pour souligner ces pratiques-là. Je rappelle que vous êtes donc responsable technique de la concession de Sali Service, donc pas très très loin de Dakar au Sénégal. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71, vous avez la parole. On parle du marché des véhicules d'occasion en Afrique.
7 milliards de voisins.
Allô ? Oui, monsieur, j'ai vérifié la voiture. Il y a votre croix de distribution là qui est un peu fatiguée. J'essaie de voir le prix avec lui et puis je vous rappelle.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On va donner la parole à un voisin, mais avant, je voudrais qu'on puisse donner la parole à une mécanicienne ambulante. Bonjour Esther.
Bonjour madame.
Esther, vous réparez des véhicules d'occasion, vous circulez entre Cocody, Yopougon, bref, vous êtes installée à Abidjan et souvent vous allez à la demande d'un client inspecter une voiture d'occasion pour lui dire si oui ou non il peut acheter la voiture. Dans quel état en général vous trouvez ces voitures achetées en Europe?
Bon, souvent ces voitures viennent dans de bonnes conditions, souvent aussi il y a quelques pannes dedans quand ça vient.
C'est-à-dire?
Bon, souvent, il arrive souvent où quand la voiture vient, quand le client ne nous informe pas d'abord, il finit d'acheter, deux à un mois, on trouve qu'il y a, comment on appelle ça même, il y a chauffage. Mm-hmm. Soit la voiture chauffe, ou bien soit il y a un problème électrique dedans, soit il y a des pièces à changer dedans. Donc, il me fait appel. Si j'ai un petit bout de temps, je vais faire ça pour lui. Dans le cas contraire, j'ai deux collègues là que j'appelle pour pouvoir faire ça.
C'est ça. Et donc, évidemment, c'est vous qui allez dire oui, vous pouvez acheter, mais à telle condition, parce qu'il va y avoir tant de frais de réparation sur certaines parties du véhicule. Quand les clients ont affaire à une femme mécanicienne, qu'est-ce qu'ils disent, Esther ?
Bon, souvent, quand ils nous voient, ils rient, ils disent que est-ce qu'une femme peut faire la mécanique ? Mais quand ils nous mettent à l'essai, ils voient que vraiment, quand une femme aime un métier d'homme, elle se donne à fond. Et maintenant, ils ont confiance et ça passe.
Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes mécanicienne ambulante à Abidjan et vous serez bientôt dans un documentaire qui est en train d'être réalisé par Nadège Batou. Merci à elle. On entendait dans un extrait justement du documentaire votre voix, la seconde vie des véhicules d'occasion en Afrique. On a parlé des modèles, des parcours, des tracasseries administratives, mais aussi bien sûr des petites magouilles. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Ibrahima nous appelle d'Abobo au Bénin. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez souhaité intervenir en direct dans l'émission. Je crois que vous êtes président du syndicat des revendeurs d'occasion à Abobo, c'est bien cela ?
Effectivement, oui. Effectivement.
On vous écoute rapidement, Ibrahima.
Bon, écoute, nous on est opposés à la limite d'âge des véhicules. On s'est inscrit sur toutes les pages de communication pour être opposés à ça. Voilà. Il n'y a rien à dire, on est contre. Parce que les véhicules qui nous arrivent de l'Europe, 12 ans, 15 ans, pour nous, c'est des nouveaux véhicules.
Eh oui, c'est sûr. Alors si demain c'est limité à 5 ans, vous n'avez plus rien dans le port de Cotonou qui arrive.
Nous, nos véhicules viennent directement au port d'Abidjan. Les véhicules viennent au port d'Abidjan, hein.
D'accord. Alors, oui, on vous écoute.
Voilà, nos véhicules viennent au port d'Abidjan. Nous les retirons au port d'Abidjan.
Voilà, d'accord, vous êtes en Côte d'Ivoire.
Lomé, c'est fermé.
Tout à fait, pardon. Ma langue a fourché, j'ai dit que vous étiez au Bénin, mais vous êtes en Côte d'Ivoire, pardonnez-moi. D'accord, voilà. Mais donc en fait, alors vous, ça veut dire que vous avez peur que les prix augmentent, que vous allez être obligé de revendre des véhicules. S'ils sont moins vieux, vous allez les revendre plus cher, c'est bien cela.
Voilà, et puis la bourse des consommateurs ne peut pas les acheter. Mmh. Voilà.
Alors néanmoins, on avait un auditeur, merci en tout cas Ibrahima de nous avoir appelé d'Abobo en Côte d'Ivoire. Un auditeur au Cameroun nous disait qu'il avait acheté son véhicule plusieurs milliers d'euros, qu'il y avait une classe moyenne aujourd'hui prête à foncer sur des prix plus élevés. Martin Rosenfeld, qu'est-ce que vous en pensez de l'augmentation inévitable des prix avec ces nouvelles limitations d'importation de véhicules trop âgés ?
Donc il y a clairement derrière ce projet de limitation de l'âge une volonté de faire en sorte que les véhicules soient en meilleur état sur les routes et puis aussi une prise de conscience des enjeux écologiques. Et tout ça, c'est extrêmement respectable. Mais il faut quand même être conscient que pour un grand nombre de personnes en Afrique aujourd'hui, c'est devenu une nécessité de posséder un véhicule. Et en même temps, il n'y a pas forcément les moyens de pouvoir accéder à des véhicules d'un prix trop élevé. Et donc, tant qu'il n'y a pas des véhicules neufs et quelque part capables d'être vendus à ces bons marchés sur place, je pense que la filière de véhicules d'occasion doit pouvoir être maintenue. Et je ne suis pas sûr que limiter l'âge soit vraiment la meilleure solution.
Alors, il faudra revenir parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses encore à dire sur cette émission. Pourquoi les grandes marques européennes ont déserté les marchés africains à la place des Japonais ? Pourquoi, effectivement, on n'a pas encore de voitures chinoises tout à fait au point ? On y reviendra. Merci à vous, Martin Rosenfeld. Votre livre s'appelle Car Connection, c'est publié chez Cartala. Demain, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À demain les voisins. Durant toute